intérieur. En soi et chez soi. Une émission de Daniel Fazan.
Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à cheval sur trois communes. Bon, ce ne sera pas le sujet, le cheval, non. Mais trois communes. De l'autre côté du trottoir, c'est Chavannes. De ce côté du trottoir, je crois que c'est Écublens. Et juste au bout de la rue, c'est Renan. Bref, nous sommes dans la banlieue lausannoise et nous rencontrons une femme au destin assez étonnant qui se joue un jour, par hasard, à Mexico. Elle s'appelle Denise Gillian. Elle est cinéaste, elle est surtout documentariste, c'est-à-dire qu'elle fait des documentaires et elle est la créatrice d'une fondation, d'une association qui fête ses 10 ans le week-end prochain, qui s'appelle Rebondard, avec D'ART. Et ce Rebondard, c'est quelque chose d'extraordinaire puisque elle nous l'expliquera, la misère existe dans notre monde, dans notre société, mais la misère culturelle aussi, et il s'agissait d'y pallier, elle y a pensé. Denise Gillian habite Chemin des Glycines. Alors là, c'est rigolo, il fait nuit, mais je vois quand même un vélo, des fleurs dans un pot, et je rentre dans cette maison assez sympa, dans le fond des années, je sais pas, 30-40, dans ce quartier relativement populaire, mais surtout urbanistiquement parlant, un peu chenu, il faut bien dire les choses. Entrée des artistes. Gillian, je sonne à la porte, et Denise Gillian va nous parler de à la fois de son destin, mais évidemment de Rebondard. Est-ce qu'elle va rebondir ? J'espère, mais je la vois pas arriver. Ah, à travers la porte. Bonsoir, Denise.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Oui, ça va, merci.
Alors, jolie rencontre. Ah, c'est chouette chez vous. Je disais une maison des années 30-40, c'est juste?
Oui, années 20.
Ah, carrément 20?
Oui, années 20, vous y êtes presque.
Alors, ça fait combien d'années que vous êtes ici?
Ça fait 10 ans maintenant. Et on a eu beaucoup de chance parce que c'est une maison immense avec jardin dans un quartier plutôt populaire.
Alors Denise Gillian, 10 ans, mais il y a plein de 10 ans à fêter. Vous avez, je crois, un fils de 10 ans, vous avez un mariage de 10 ans, une maison de 10 ans et Rebondard qui a 10 ans.
Oui, c'est vrai. Oui, je n'avais pas fait le lien, vous avez raison. Ouais.
Alors, j'aimerais quand même qu'on sache à peu près l'âge que vous avez, parce que vous avez une jolie voix de jeune fille.
Moi, j'ai 45 ans maintenant.
Alors, à 35 ans, vous décidez de beaucoup de choses, mais peut-être qu'en amont, il est important, on va rentrer peut-être dans cette pièce, belle plante verte ici, des meubles. Oh, il y a des meubles de famille là.
Oui, il y a quelques meubles de famille, ouais, que j'ai hérités de mon grand-père, que j'adorais, grand-père maternel, avec lequel j'avais une belle relation, qui était quelqu'un qui créait aussi. Et j'ai hérité de lui beaucoup de livres, annotés de sa main, des livres qui sont très précieux pour moi. Et puis ce meuble, notamment chinois, ce petit secrétaire, tout noir.
Ouais, génial, avec de la nacre.
Oui, avec de la nacre et des dorures, c'est vrai que je l'aime beaucoup.
On s'assied peut-être. Alors, une tonalité orange dominante ici. Ah, c'est rigolo cette sculpture au-dessus du canapé. Ça fait presque peur. C'est quoi? C'est du papier mâché?
Oui, alors ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai eu envie à un moment donné de m'atteler à la sculpture. Il y a une structure à l'intérieur qui est en fil de fer souple sur laquelle on a mis du papier mâché. Et je voulais faire une gargouille. Ça ressemble un peu à autre chose.
Non, non, ça ressemble à une gargouille. Simplement, je ne vois pas où l'eau pourrait en sortir. Mais il n'y a pas de corps. Enfin, c'est-à-dire, il y a un torse, des bras, un personnage avec des corps nus, comme ça, étrange, dans les couleurs pratiquement... oui, ces couleurs de cuivre patinées de vert de gris.
Oui, alors la patine vient du fait que je voulais en faire une gargouille. Et pour moi, c'est un personnage qui est enfermé à l'intérieur de lui-même. Hein, il est dans une position comme ça où on sent que ses épaules sont complètement... Il est coincé, quoi, il ne peut pas respirer. C'est au niveau des poumons qu'on perd son corps. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est enfermé dans lui-même.
Denise Gillian, j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse de vous. Vous êtes belle, vous avez un beau regard, un beau sourire, vous êtes jeune, pétillante et que vous allez vers les autres et que c'est exactement l'inverse de ce personnage. C'est les personnages que vous rencontrez et que vous essayez de saisir dans vos documentaires notamment?
Non, je pense que c'est plutôt l'expression de comment je me sentais plus jeune, à savoir très enfermée comme ça, avec une difficulté peut-être d'exprimer réellement qui je suis. Je pense qu'on traverse tous un peu ça à différentes phases de la vie aussi, hein, cette impression de ne pas être tout à fait bien compris ou de ne pas pouvoir tout à fait exprimer qui on est au fond. Alors c'est vrai qu'avec l'âge et le temps, ça va mieux et que maintenant je me sens très très ouais, ouverte au monde et je pourrais même dire en amour avec le monde.
Oh, ça, j'aime bien entendre ça. Asseyez-vous à côté de moi sur le canapé, à côté. C'est sympa. Il y a un côté artisanat, mélange, patine des choses. Il y a peu de choses design neuves chez vous. Il y a toujours du vécu dans tous les objets.
Oui, c'est très important pour moi. Oui, je pense que les objets sont chargés d'énergie, hein, et l'âme des objets, si je peux parler comme ça, est très importante. J'adore chiner, aller chez Emmaüs, par exemple, récupérer des trucs à gauche et à droite. C'est vrai.
Alors, quand vous avez 16 ans, Denise Gihan, il se passe plusieurs choses dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez été enfermée beaucoup en vous-même, mais vous vous êtes ouverte et surtout ouverte au monde. Vous êtes partie, vous avez quitté la Suisse très tôt, très jeune.
Alors oui, j'ai quitté la Suisse à 16 ans pour aller partir en voyage, en fait.
Pour fuir quoi ?
Je dirais que plus que la fuite, je crois que c'était une quête d'un sens à la vie. Je n'étais pas dans une mouvance à 14-15 ans comme ça. Bon, c'était l'époque de Lausanne Bouge, hein, des manifestations de rue, de la lutte pour le cabaret Orwell, etc. C'était une mouvance assez noire, hein, c'était le temps des punks aussi. Et bon, mes parents venaient de divorcer, je le vivais très mal. Et je ne trouvais pas le sens de la vie. Donc j'ai l'impression que cet acte de partir, de vouloir voyager le plus loin possible, dans des cultures encore inconnues, c'est vraiment une quête de sens. Et bon, j'ai choisi le Mexique, je suis partie avec une amie, j'ai choisi le Mexique parce qu'on voulait partir aux États-Unis. Et pour les États-Unis, il faut un visa, on était mineurs, on a choisi le pays le plus proche, qui était Mexico. Et c'était un acte vraiment très impulsif, je dirais. Et actuellement, je pense que ça a été fondateur parce que c'est au Mexique que j'ai fait des rencontres qui étaient absolument déterminantes pour la suite de ma vie. Et c'était comme une deuxième naissance, voilà ce que je peux en dire brièvement.
C'est étonnant parce que ce n'est pas des rencontres parce que vous essayez de fabriquer une rencontre. C'est carrément le hasard absolu, c'est l'ange qui vous tombe sur la tête dans Mexico City, quelqu'un qui vous rencontre dans la rue, mais dans une circonstance incroyable.
Oui, alors, pour moi, les rencontres sont toujours très précieuses. Hein, j'ai toujours été très ouverte comme ça à ce que la vie m'offre. Que ce soit une rencontre dans un train, ou c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai toujours été très ouverte. Je prends ce qui vient dans ma vie. Et là, je vivais à Mexico City depuis, et je voyageais dans le pays depuis 6 mois, et il me restait $50 en poche. Et je ne voulais pas rentrer. J'avais un billet d'avion de retour aussi, mais je ne voulais pas rentrer. Et je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire. Mon amie Nina aussi, on avait 16 ans, donc on n'avait pas de métier à faire valoir. Et on se baladait au centre-ville de Mexico, et là, une femme, une blonde, comme ça, très extravertie, m'arrête et me dit « Mais quelle taille de pantalon vous avez ?» Et évidemment, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut ? Qui c'est elle ? Et à l'époque, à Mexico, il n'y avait pas de libre-échange possible, donc ils avaient du mal à faire venir des pantalons, des Lewis par exemple. Je portais un Lewis. Je me dis, bon, elle veut peut-être échanger son jeans avec le mien, donc je lui réponds. Puis en fait, tout de suite après, elle me dit, écoute, je viens de créer une agence de mannequins. C'est un sacré challenge pour moi, c'est très important. J'ai besoin demain matin de visages européens. Tu as un visage européen ? J'avais les cheveux très courts à l'époque, en plus, ce qui ne se faisait pas du tout à Mexico. Donc j'étais assez typée comme ça pour eux. Elle me dit, viens, demain matin, il y a un casting, je pense que tu peux là travailler. Puis moi, ça me rendrait service parce qu'il me manque des modèles. Et puis, je suis allée le lendemain matin chez elle, il y avait un casting et ça a marché. En fait, j'ai été engagée, ce qui m'a permis de travailler après pendant 2 ans comme mannequin avec Mathilde dans son agence. Et puis du coup, de pouvoir rester dans le pays, j'en étais ravie. Et en travaillant comme mannequin, je me suis retrouvée sur des plateaux de tournage pour faire des pubs de voitures, de bières, de marques alimentaires. Et sur ces plateaux de tournage, j'ai découvert la profession de réalisateur qui est devenue la mienne par la suite. Et cette profession m'a fait complètement rêver quand je les ai vus bosser parce qu'ils faisaient tout ce que j'adorais. Ils écrivaient, ils dessinaient, ils voyageaient, ils étaient libres, ils rencontraient des gens. Et en fait, je suis entrée dans le cinéma par ce biais-là, quoi.
Donc c'est incroyable. Vous croyez à l'opportunité, à la chance ? Vous croyez que le hasard se fabrique, qu'il se rencontre ? Ou c'est autre chose ? Il y a une prédestination dans l'existence, Denise Gihan ?
Alors, prédestination, je n'aime pas penser comme ça. Non, mais je crois que quand on a nos antennes dehors, quand on est vraiment ouvert et réceptif à ce que la vie nous offre, en fait, la vie est très, très généreuse et qu'il faut saisir les opportunités qu'on rencontre. Je pense aussi que quand on a un objectif, quel qu'il soit, on sort ses antennes, on tend à aller vers cet objectif. Et que du coup, on est très vigilant sur tout ce qui peut nourrir, en fait, notre projet. Alors ça, j'ai toujours eu, c'est vrai, cette espèce de disponibilité, de réceptivité à moi, mes désirs et cette ouverture aux autres qui fait que les rencontres sont des vraies rencontres et souvent des opportunités extraordinaires d'évoluer, d'apprendre des trucs, de bouger, de grandir.
Donc, vous êtes une vraie cinéaste pure parce que vous faites une école notamment à Florence pendant 2 ans. Vous parlez espagnol, donc forcément italien aussi, toutes les langues. Et puis, vous avez cette empathie qui ne va pas faire de vous une cinéaste de la fiction, mais une cinéaste très particulière qu'on appelle de documentariste. On croit toujours que vous êtes des personnes qui suivaient sans scénario les êtres dont vous voulez témoigner de l'existence et du sens de leur vie. En réalité, pas du tout. Vous construisez des films et vous les observez, vous conduisez leur vie. C'est ça, le documentariste ?
Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours été très interpellée et attirée par la marge. Je trouve qu'avec le métier de documentariste, on a une chance extraordinaire, c'est d'aller là où les autres ne vont pas, hein, et de faire valoir une parole qu'habituellement on n'entend pas. Donc j'ai toujours travaillé dans des milieux marginalisés, avec des SDF, des toxicomanes, des détenus, aller vraiment à la frontière, là où on ne va pas, mais aussi là où c'est fragile. Parce que pour moi, la fragilité révèle aussi les dysfonctionnements de nos sociétés, et puis l'humain. Qui est passionnant. Maintenant, je ne peux pas faire de généralité non plus par rapport au métier de documentariste. Moi, tel que je le pratique, c'est vraiment la rencontre avec quelqu'un qui m'intéresse ou avec un groupe de personnes qui m'intéressent et une construction dans la durée. Alors, les projets que je préfère faire sont des projets où il y a un événement. Par exemple, j'ai filmé des SDF qui montaient une pièce de théâtre à Paris, Les Bas-fonds de Gorky. Et en fait, l'événement théâtral me permet de rencontrer des gens très démunis, des gens de la rue, mais en leur donnant en fait quelque chose à faire qui est valorisant, qui est digne, qui va leur permettre de se métamorphoser devant moi, devant ma caméra. Donc il y a un enjeu dramaturgique comme ça, le théâtre, est-ce qu'ils vont arriver à jouer, est-ce qu'ils vont pas y arriver, c'est vachement dur hein, quand on est dans la rue, qu'on n'a pas de lunettes, que les dents sont cassées, qu'on n'a pas d'hygiène de vie, c'est un enjeu extraordinaire. Donc ça j'aime filmer parce qu'il y a l'enjeu comme ça, vont-ils y arriver ou pas, qui crée la dramaturgie du film, puis derrière il y a ces rencontres qui souvent sont magiques avec des personnes que je ne pourrais pas aborder frontalement parce que ça fait pas partie de ma personne, je pourrais pas aller vers eux en disant vous êtes SDF, parlez-moi de ce que vous vivez. Mais là, ça permet de révéler justement leur fragilité et la dureté de leur vie, mais à travers un geste digne, quoi, à travers une activité créative.
Grand danger, vous les sortez de dangers existants, ils ne savent pas les dangers qui vont suivre parce que leur notoriété, ils vont s'illusionner aussi sur leur talent, ils n'auront pas peut-être de débouchés après le film. On regarde tout ce qu'ils font, on les observe, ils sont la star d'un moment. Est-ce que vous ne les mettez pas finalement aussi, ces gens-là, sans précaution, en danger ?
Alors, je pense qu'on les met dans une situation de vie qui est très riche, très dense, et comme nous tous, parce que c'est valable pour nous aussi, quand on vit quelque chose d'extraordinaire, ben après, il faut en faire le deuil. Hein, il y a toujours un moment, après un chagrin d'amour, après, je ne sais pas, on édite un bouquin, on le sort. Après, il y a un moment de solitude extrême qui, effectivement, nous rend fragiles.
Le baby blues.
Le baby blues, ouais. Mais eux sont comme nous. Ça veut dire qu'ils ne vont pas être plus fragiles ou plus en danger que nous après une expérience extraordinaire. Au contraire, ils vont en ressortir enrichis d'une tranche de vie qui leur aura fait du bien. Donc on ne va pas se priver de quelque chose de formidable, d'un moment où ils peuvent reprendre confiance en eux, vivre quelque chose d'extraordinaire qui va nourrir leur être profond. On ne va pas s'en priver sous prétexte qu'après ce sera plus difficile, parce que sinon, nous non plus, on ne vivrait rien.
Les mettre en vitrine, alors on comprend le danger, les mettre en vitrine, ça a créé des échecs pour certains. Certains sont retombés dans l'ornière de laquelle vous avez peut-être rêvé de les en sortir.
Alors, bien évidemment, ce n'est pas des petits miracles hein, qu'on fait, à savoir qu'on amène quelque chose de positif dans une destinée, et après, ben, chacun en fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Donc, ce que j'ai pu observer dans tout mon travail, c'est que je dirais à peu près la moitié d'entre eux arrivent à rebondir à travers cette fierté retrouvée. Ce lien au monde qu'on a recréé. Alors, rebondir, ça ne veut pas dire se renormaliser ou se réinsérer dans une société qu'ils avaient, avec laquelle ils étaient en rupture, probablement pour de bonnes raisons. Ça veut dire arriver à être de nouveau en lien avec soi-même et avec les autres. Et ça, quand on est SDF depuis longtemps ou un grand criminel en voie de réinsertion, c'est déjà énorme. Donc, pour moi, c'est là la petite victoire. C'est vraiment d'arriver à créer le lien avec qui on est, profondément et du coup de se réouvrir au monde. Alors certains après retrouvent du travail, d'autres pas. Si on regarde qui retrouve du travail, qui n'en retrouve pas, pour moi on réduit l'action à des statistiques et ça c'est pas intéressant. Donc par rapport à ça, ce que je peux dire c'est que la majorité, oui, retrouve de quoi se recréer une identité qui est juste la leur au fond. Hein, ils renouent avec eux-mêmes et ça c'est énorme.
Art Mengo.
Allez, embrasse-moi encore. Et puis embrasse-moi encore. J'aime l'idée volatile des baisers éternels. Qu'en restera-t-il? Bagatelle. Allez, embrasse-moi encore. Et puis embrasse-moi encore. Pour joindre le futile à l'agréable, ma belle. Qu'en restera-t-il? Bagatelle. Plus qu'une bise légère, il restera dans l'air une envie en chanson, piano à bretelles. Bagatelle. Musette accordéon qui fait dans la dentelle. Bagatelle. Plus qu'une bise. Allez, embrasse-moi encore. Et puis embrasse-moi encore. Il n'y a pas plus utile et plus universel. Qu'en restera-t-il? Bagatelle. Allez, embrasse-moi encore. Et puis embrasse-moi encore. J'aime l'idée volatile des baisers éternels. Qu'en restera-t-il? Bagatelle. Plus qu'une bise légère, tes baisers manquent pas d'air. Ils frivolent en chanson, piano à bretelle. Bagatelle. Musette accordéon qui fait dans la dentelle. Bagatelle. Plus qu'une bise. Allez, embrasse-moi encore. Et puis embrasse-moi encore. Pour joindre le futile à l'agréable, ma belle. Qu'en restera-t-il? Bagatelle. Allez, embrasse-moi encore.
Une visite intérieure pour parler de soi.
C'était Art Mengo, le petit gars de Toulouse. Art qui veut dire culture, quelque part. Art, mais en fait, là, en l'occurrence, c'est Arthur, c'est un diminutif. Il nous chantait Bagatelle, et c'est vraiment, avec Denis Gillian, pas de quoi parler de Bagatelle. On va parler d'art aussi, puisque rebond d'art, c'est très bizarre comme mot d'association que vous avez créé il y a 10 ans, et qui va fêter ses 10 ans prochainement, Denis Gillian. On va y revenir. L'art pour vous, quand on fait du documentaire et qu'on est une auteure du documentaire filmé, est-ce qu'on fait de l'art ? En l'occurrence, vous faites du social, de l'art, vous êtes une artiste ou vous êtes un des acteurs de la vie qui tente à sociabiliser les gens les plus marginalisés qui soient ?
Alors je crois qu'avant toute chose, moi je suis cinéaste. Donc la mise en forme en fait, de mes documentaires est très importante et là c'est artistique. C'est une ouverture au monde, mais c'est aussi une action vraiment artistique. Ensuite, il se trouve que l'objet de cette action artistique, ce sont les autres, ce sont les gens. Donc là, on est vite dans le social ou dans la rencontre. Mais avant tout, moi, je me sens cinéaste et artiste.
La patte humaine, c'est vraiment essentiellement ce qui vous intéresse. Vous vous êtes enfermé dans des prisons pour témoigner. Vous vous êtes senti en empathie totale ou vous vous êtes senti très différente des gens que vous filmiez? En quoi aviez-vous quelque chose de fortement commun avec eux? Parce qu'un assassin, quand on a un assassin en face de soi, on pense quoi quand on le rencontre le matin et qu'on le quitte le soir?
Alors, le dernier film que j'ai fait en prison, parce que j'en ai fait deux, donc le dernier, mon objectif était d'animer un atelier cinéma avec un groupe d'une dizaine de détenus pour leur permettre à eux de faire des films documentaires. Donc là aussi, la rencontre s'est faite autour du cinéma, autour de l'action artistique. Ça veut dire que quand je suis entrée en prison, j'avais moi le souci de leur permettre de créer. Donc ma peur, c'était pas est-ce que c'est un assassin ou est-ce que c'est un voleur. Ma peur, c'était est-ce que j'aurais moi les outils pour réveiller un désir de créer en eux, pour susciter en fait un enthousiasme par rapport à une prise de parole qu'on leur a enlevée pour certains depuis plus de 20 ans. Donc en fait, j'étais mobilisée par ce souci-là, ce qui est très protecteur. Et je pense que ça, c'est intéressant aussi quand on fait du documentaire, c'est qu'on est autour d'un objet, on est en train de faire un film. Donc la rencontre, elle n'est pas frontale, on ne va pas rencontrer un assassin. On va rencontrer quelqu'un qui, d'une part, est le protagoniste de notre film. Et dans ce contexte-là, c'était rencontrer des gens dans lesquels je voulais réveiller une action créative, quoi, le désir de créer et de transmettre au monde.
Vous connaissiez leur passé de chacun ?
Non, c'était une des règles que je m'étais fixée, que j'avais fixée à mon équipe, pour pouvoir rester libre dans la rencontre, c'était de ne jamais demander ce qu'ils avaient fait. Donc on ne savait même pas si c'était des petits criminels, des grands criminels. Ce qu'on voulait, c'était vraiment les rencontrer autour du cinéma et laisser venir les confidences. Si les gens avaient besoin de nous parler, on était là, on écoutait très volontiers, mais on n'allait pas au questionnement. Puis ensuite, comme je faisais un film documentaire sur cette expérience, bien entendu, la part humaine et puis la part de leur destinée est devenue importante, parce que je ne voulais pas laisser le spectateur de mon film non plus toujours avec cette question qui finalement serait devenue une question parasite. Hein. Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien joli, on les voit faire du cinéma, mais on aimerait quand même savoir pourquoi ils sont là. Donc petit à petit, j'ai amené ce questionnement qui n'était pas un questionnement, c'était pas de l'interview, quoi. C'était plus on travaillait ensemble et les confidences sont arrivées. Et à ce moment-là, j'ai découvert que parmi eux, il y avait effectivement des gens qui avaient tué, il y avait des gens qui avaient commis des délits graves. Mais la relation était tellement établie, ça faisait 4-5 mois que je travaillais avec eux, que c'était plus ça qui était prioritaire. Quand j'ai appris, par exemple, que certains d'entre eux avaient tué, je ne voyais pas en eux d'abord l'assassin, je voyais en eux, les gens que j'avais rencontrés, quoi, Bernard ou Patrick, ou je voyais des humains d'abord. Alors ça aussi, ça permet de construire vraiment une relation en intégrant leur criminalité comme un paramètre parmi tant d'autres. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre aussi dans le film, l'article 43, c'était vraiment faire vivre aux spectateurs cette rencontre, qui est d'abord une rencontre humaine, et puis après il y a des accidents de parcours qui sont parfois très graves, mais ça reste des accidents dans un parcours qui est plus large, et ça n'empêche pas qu'on peut rester humain même si on est criminel.
Alors on sent bien que vous vous interrogez beaucoup sur le sens de votre vie, de la vie, de votre métier, vous interrogez aussi les autres. Quelle est la différence dans votre rôle de cinéaste et documentariste d'avec la profession de journaliste, puisque vous interrogez les personnes? Vous êtes une intervieweuse. Vous cherchez l'objectivité, vous cherchez quoi ?
Alors, j'ai une chance extraordinaire de travailler en indépendante. Ça veut dire que je suis très très libre de pouvoir traiter mes sujets de façon très subjective, vraiment comme un auteur. C'est là que je poserai la différence avec un journaliste qui se doit peut-être de tendre vers plus d'objectivité puis de mener vraiment une enquête un peu plus large. Moi, j'ai pas du tout cette préoccupation-là parce que mon indépendance me laisse, laisse une part belle quoi, à la subjectivité. Alors, c'est vrai que dans mon travail, je donne la parole aux gens qui vivent les choses. Hein. C'est des témoignages à la première personne. J'ai vécu ça, voilà ce que j'en pense. Donc, il y a une espèce de transparence par rapport à cette subjectivité. On sent dans mes films qu'on n'est pas dans l'enquête, qu'on est dans le partage d'une tranche de vie. Et dans une rencontre, avec tout ce que ça veut dire, effectivement, de subjectif. Et moi, je crois beaucoup à l'émotionnel. Hein. Je crois beaucoup à quand on rencontre quelqu'un et que la relation de confiance lui permet vraiment de devenir petit à petit presque transparent, ou du moins grandement sincère, du coup, il nous amène des informations sur comment lui vit les choses. Alors, par exemple, en prison, j'avais dans mon groupe des condamnés à perpétuité, ces fameux articles 43, hein, ces gens qui ne savent pas quand ils vont sortir de prison parce qu'ils sont sans cesse réévalués par rapport à leur dangerosité. Et face à des gens comme ça, c'est sûr que de leur permettre la parole à la première personne, on n'est pas dans l'enquête autour du code pénal, on est dans la perception de qu'est-ce que ça veut dire de l'intérieur que de vivre la perpétuité. Donc finalement, ce sont des tranches de vie partagées et je crois que le spectateur le sent et le prend comme tel.
Denise Gillian, avez-vous peur dans l'existence en général ? Je ne parle pas d'aller en prison et rencontrer des assassins. Là, dans ce cadre-là, il n'y a pas plus de peur que de se retrouver dans la rue un soir tard ou voire même à midi dans une ville, même petite chez nous, où on voit qu'il y a des dangers partout. Mais peur de quelque chose, parce que vous affirmez bien les choses, vous êtes clair dans votre esprit. On se dit, cette femme, elle est si limpide, elle sait où elle va. Mais vous avez des doutes sur vous. Vous avez des doutes, je ne sais pas, vous avez des peurs.
Oui, je pense que c'est pour ça que je suis si claire dans mon travail.
Ah, si la peur donne ça, alors vous êtes vraiment limpide. J'aimerais être limpide comme vous.
Alors, moi, je pense que je suis vraiment profondément animée, mais depuis toute petite, quoi, par cette quête de sens dont je parlais tout à l'heure. Hein.
Et de justice aussi.
Oui, de justice aussi, c'est vrai. Et cette quête de sens fait que je vais affronter mes peurs dans mon travail. Ça veut dire que petit à petit, comme ça, j'acquiers des petits bouts de réponses. C'est peut-être ça qui me permet d'être claire et limpide dans mes réponses. Mais au fond, il y a toujours cette quête du sens, bien parce que je suis quelqu'un qui doute profondément et qui n'est pas rassuré sur le sens de la vie tel qu'on le pratique, quoi, tel qu'on le vit dans nos sociétés. C'est peut-être ça qui me fait peur. C'est que je trouve qu'on est dans une société qui va au non-sens. On est de plus en plus stressé, tout devient virtuel. On est peu dans le lien aux autres, dans l'amour des autres. On perd la compassion. Et ça, ouais, ça me terrifie.
La compassion, ça c'est quelque chose de très fort, parce que c'est pas la pitié, on est bien d'accord. La compassion, c'est ce partage humain que vous avez toujours eu. Visiblement, à 15 ans, vous étiez déjà consciente que vous étiez une compassionnelle née et que c'est de là que vous vivriez, vous alliez pouvoir vivre en tout cas une vie qui est celle que vous avez rencontrée plus tard.
Alors, la conscience est venue bien après. Hein. À 15 ans, je le vivais plus comme... J'étais une éponge. Tout me touchait terriblement. J'étais hypersensible. Et du coup, c'était assez dur. Hein. Je ne savais pas quoi en faire. Je voyais la dureté du monde. J'ai grandi dans un milieu avec des parents très engagés dans le social. Donc, à table, ils parlaient de la misère du monde. J'étais vraiment nourrie par ça depuis cette conscience-là toute petite. Donc, à 15 ans, j'étais plutôt dans la peur du non-sens. Je me disais, mais ce n'est pas possible, un monde qui va si mal, avec tant de misère sociale, etc. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire là-dedans, enfin. Mais j'étais plutôt victime de quelque chose qui me dépassait, qui me débordait. Le sens, la capacité de mettre des mots dessus et d'en faire moi-même quelque chose est venu bien après.
Alors, 30 ans se sont passés entre 15 ans et aujourd'hui, 45 ans, Denise Gillian. On peut se faire des réflexions tous les jours en lisant les journaux que le monde va à une forme de dérive, nous fait un peu peur, puisque nous parlions de la peur tout à l'heure, qu'il y a de la violence non contenue, non maîtrisée. Et votre président d'association, Olivier Moret, en est un véritable témoin, puisque pour Rebondard, il travaille en parallèle, parce que ça c'est un rôle tout à fait honorifique, efficace, mais évidemment bénévole. Dans d'autres domaines, il travaille avec des jeunes en difficulté, et ça se voit tous les jours. On souffre tous de sentir un peuple entier de jeunes, pas tous, mais une frange de la société qui souffre terriblement de sa propre violence et qui est incapable de la contenir. Ces 30 ans qui se sont passés, on va vers le mur ou on s'en éloigne ?
Moi, je pense qu'on va dans le mur et je suis pressée qu'on y arrive. Parce que c'est pas possible de vivre comme ça, d'exiger des gens d'être de plus en plus rapides, performants, cet appât du gain qu'on voit partout, hein, qui fait que les gens sont malheureux pour la plupart dans leur métier. Il n'y a jamais eu autant de dépression, de burn-out, etc. Et je pense qu'on arrive au bout de quelque chose et que ça ne va pas durer. Moi, je suis très confiante sur le fait qu'on est presque dans le mur et que forcément, ça va réagir. Je veux dire, on ne peut pas vivre de façon tellement hyper tendue tout le temps sans avoir besoin de retrouver, comme ça, de relâcher la pression et de retrouver le goût d'être dans la nature, le goût d'avoir le temps de communiquer avec les gens, de faire des vraies rencontres, justement. Et on sent, je trouve, de tous les côtés, quoi, qu'il y a un besoin, mais immense, aussi de spiritualité. On a aussi perdu ça, hein, dans nos sociétés. Je trouve que de plus en plus, il y a des signes qui me rendent confiance, qui me font dire on y est presque, quoi. Ça va péter, d'après moi. Et on sent de plus en plus de gens qui vraiment cherche à vivre autrement. Donc moi, j'ai l'impression que dans le mur, on y est presque et que derrière, j'ai bon espoir qu'on arrive à revenir à un rythme, simplement un rythme de vie et de disponibilité aux autres qui va nous permettre d'être de nouveau plus humains, quoi, plus relax.
On va vers la satisfaction, on la cherche. Satisfaction, c'est Cat Power, c'est le titre des Rolling Stones.
Telling me more.
intérieure sur la première.
C'était Cat Power, Satisfactions, la relecture du titre des Rolling Stones. On est toujours chez la cinéaste documentariste Denise Gillian. Grand plaisir dans son salon. On ne va pas bouger parce qu'on se fait des confidences et c'est fort. On est là à cheval sur les trois communes de Renan, Chavannes et Cublan. Il y a des chats autour de nous, des jolies choses, une belle lumière surtout. C'est beau ces lampes que vous allez brocanter et chiner. Rien de neuf chez vous.
Non, rien de neuf. J'adore les objets qui portent une énergie comme ça et du vécu. Puis c'est vrai que j'aime bien l'éclairage tamisé. J'aime bien qu'il y ait diverses sources de lumière. Hein, comme ça, on crée des petits coins. J'adore les bougies, comme vous pouvez voir. Il y a des bougies partout. Enfin, c'est vrai que c'est très précieux. Mon intérieur est important. Quoi. J'aime me sentir bien chez moi. C'est vrai que je prends soin de ma maison.
J'aime votre intérieur et c'est votre intérieur aussi, humainement parlant, qui m'intéresse. Puisque depuis 10 ans, Rebondard, que vous avez créé une association très particulière. Et vous allez nous expliquer le sens de cette association. Cette association est née il y a 10 ans. Vous l'avez laissée vivre maintenant. Vous avez un œil dessus. Mais Rebondard, avec D'ART, c'est à 35 ans la prise de conscience que la misère n'est pas seulement financière, sociale, mais qu'elle est aussi culturelle. Et ça, c'est étonnant. Vous avez, à 35 ans, eu cette conscience-là.
Alors c'est grâce à la réalisation du film Les Bas-fonds dont je parlais tout à l'heure qui m'a fait rencontrer cette population de SDF à Paris. En plus, ça veut dire que c'est vraiment des gens qui souffrent une misère crasse. Et en les voyant pratiquer le théâtre sur une année et en voyant comment le théâtre leur permettait de se reconstruire d'abord physiquement, parce que faire du théâtre, ça veut dire lire un texte, donc il faut reporter des lunettes, il faut prendre soin de ses yeux, ça veut dire avoir de la diction, ça veut dire que pour ceux qui avaient les dents tout abîmées par la rue, se refaire faire les dents, ou apprendre à avoir une bonne diction avec des dents en moins, ça veut dire se doucher, parce que sur une scène de théâtre, on est en groupe, ça veut dire que quand on pue, les autres s'éloignent, on ne peut pas. Enfin, ils ont réacquis comme ça toute une hygiène de vie qu'ils avaient perdue, et puis après, ça veut dire avoir la force d'aller chercher en soi quelque chose qu'on va offrir au monde. Et la prise de conscience a eu lieu, ou s'est renforcée, parce qu'elle avait déjà eu lieu avant, je dirais, comme ça par touche, mais cette prise de conscience qu'à travers une action artistique, quelle qu'elle soit, on peut vraiment se réouvrir au monde, puis réexister, quoi, retrouver sa propre valeur, m'a donné des ailes, en fait, quand je suis rentrée en Suisse après ce projet, pour permettre à ce type de projet d'exister en Suisse romande, parce que je me suis aperçue qu'il n'y avait rien de tel qui se faisait. Il y avait bien des ateliers d'art-thérapie, etc., mais ce n'est pas pareil.
Ah oui, parce que la grande difficulté de l'art-thérapie d'exister, c'est que l'art-thérapie ne se montre pas, on ne montre pas les travaux aux autres, ça reste confiné dans un cercle intime.
Oui, alors en créant Rebondard, c'était vraiment ça que j'amenais, qu'on amenait, parce qu'on est un groupe de 12 personnes, de différents. C'est que Rebondard, en fait, se destine à mettre sur pied des actions artistiques pour des personnes cabossées par la vie, dans le but de les aider à rebondir. Et ce sont toujours des projets artistiques qui sont offerts au monde. Ça veut dire que les tableaux sont exposés dans des vraies galeries, les pièces de théâtre sont jouées dans des vrais théâtres. Et là, ben, le projet actuel, en fait, c'est du Land Art. Ce sont des œuvres d'art végétal pérennes qui vont rester en fait dans le parc d'un EMS, l'EMS des Baumettes à Renan. Donc œuvres pérennes, durables, offertes au monde, exposées au public et médiatisées.
Et créées par ?
Créées par des personnes cabossées par la vie, cabossées de toutes sortes de façons différentes. Ça peut être des SDF, ça peut être des gens en profonde dépression, ça peut être simplement des gens en perte de sens, qui ont plus de revenus et qui sont dans un moment de fragilité dans leur vie. Et nous, ce qu'on espère chaque fois avec ces actions artistiques, c'est de leur permettre de se retrouver eux-mêmes, de rebondir de façon à savoir quoi faire, avoir la force de refaire quelque chose de leur vie après.
Ils sont les acteurs de leur propre renaissance grâce aux petits coups de pouce que vous leur donnez. Et c'est une association qui vit sur quels moyens financiers ?
Alors, les projets sont chacun financés très largement par la loterie romande. C'est vrai que sans la loterie romande, on n'arriverait à monter aucun de nos projets. Et puis après, y a la ville de Lausanne qui peut participer. Il y a une grande générosité des entreprises locales aussi, des donateurs privés. En fait, Rebondard a toujours fonctionné grâce au bénévolat. Il y a toujours eu des convaincus qui font tourner l'association. Mais chaque projet est financé et les animateurs de projets, etc. sont eux payés. Ça, c'est aussi très important pour nous. C'est que le bénévolat a bien évidemment une limite et il faut aussi pouvoir rémunérer les gens qui se mettent au service d'un atelier.
Denise Gillian, évidemment, tout ça est idéal de voir fonctionner depuis 10 ans à la fois votre maison, vos enfants grandir, votre sens de la vie, votre sens professionnel est rebondard. C'est de qualité, les œuvres d'art qu'on y présente. On peut présenter un beau travail compétitif, puisque c'est un petit peu la tarte à la crème de notre société. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient aujourd'hui exigeantes, de grande qualité, et qu'on ne présente pas des choses médiocres dans le cadre du Land Art, par exemple, de cette inauguration au Baumet à Écublens.
Oui, alors les œuvres sont de grande qualité. Maintenant, moi, je n'aime pas le mot compétitif.
Non, moi non plus, mais c'est le mot qu'on nous impose dans le sens des choses et de nos existences, vous le savez bien.
Oui, alors notre objectif n'est pas de rivaliser avec des artistes reconnus qui en vivent. Hein, et je pense que la qualité des œuvres, on peut y ressentir aussi une certaine fragilité, parce que souvent, c'est la première fois que ces gens-là se coltinent à la sculpture, au cinéma, au théâtre. Donc les œuvres ne sont pas équivalentes à des œuvres faites par des artistes qui pratiqueraient ça depuis 10-15 ans, bien entendu. Par contre, il y a la beauté aussi du spontané. Donc, l'encadrement donné permet vraiment à ces œuvres d'exister en tant qu'œuvres d'art, mais des œuvres d'art fragiles, et cette fragilité fait leur charme aussi.
C'est-à-dire que vous demandez aux spectateurs d'avoir un peu de compassion aussi ?
Je demande aux spectateurs d'être ouverts et de garder en eux bien présent cette capacité d'émerveillement qu'ont les enfants. Parce qu'un enfant, quand on lui présente une œuvre d'art faite avec des arbres, des ficelles, des troncs d'arbres, il va juste dire « waouh !» et il ne va pas se demander si c'est mieux ou moins bien ou si c'est performant, etc. Donc voilà, je demande aux spectateurs d'avoir cette capacité de s'émerveiller devant ces choses qui sont très belles.
Alors, je regarde les bibliothèques ici, il y a des CD, des milliers, des films, vidéothèques, il y a des bouquins. Il y a peut-être des colliers de nouilles ou des cadeaux d'anniversaire faits par les enfants qui sont des sculptures ratées, qui sont le symbole extrême et contraire de ce que vous faites, vous maintenant avec des adultes. Vous montrez un truc vilain que vous avez reçu là, pour la fête des mères.
Non, je ne ferai pas cet affront-là à mes enfants.
Mais il y en a.
Oui, il y en a.
J'en ai guigné un, j'ai vu tout à l'heure, une sorte d'éléphant.
Ah ben, l'éléphant n'a pas été fait par un de mes enfants.
Ouais. Non. C'est qui ? C'est votre mari ?
Mais auquel éléphant vous
Attendez, on va se lever. On est dans le salon, c'est rigolo. Mais il m'a semblé de loin, mais j'ai des problèmes de vue, je n'ai pas mis mes lunettes, c'est quoi ? Non, c'est ce machin-là. C'est quoi ? C'est quoi ces choses ?
Alors c'est une œuvre en pâte à sel faite par mon fils Léo, il y a 2 ans de ça, il avait 8 ans quand il a fait ça. Et on s'est amusé à faire des petites sculptures en pâte à sel. Donc voilà, il m'a offert cet éléphant dans le cadre de cette mini-atelier qu'on avait monté à la maison.
Alors ça tient à la fois de la souris, du rhinocéros, de l'éléphant, c'est assez rigolo et assez moche, faut bien dire.
Alors, c'est un animal imaginaire. Moi, je peux le trouver que merveilleux parce que c'est mon fils qui l'a fait. Donc, je ne partage pas votre point de vue sur le fait qu'il est moche.
Mais il est dans le quartier des éléphants. Là, il y en a des vrais, des sculptures, des trucs qu'on trouve dans les marchés en Thaïlande et au Sri Lanka.
Oui. Alors, ce qui fait la merveille de ce petit éléphant fabriqué par mon fils, c'est...
C'est qu'il est différent.
C'est son imagination, justement. Parce que si vous le comparez aux vrais éléphants qui sont en-dessus, comme vous le disiez, ce petit éléphant est... tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est chouette.
Ouais, je voulais vous provoquer là-dessus. On change. Là, c'est la table, j'imagine, à laquelle on mange. La cuisine que vous faites dans la cuisine d'à côté, il y a de nouveau des couleurs et des bouquins et des choses partout. Vous êtes bonne en cuisine, Denise Gian ?
Mon Dieu, non, pas du tout. Non, une catastrophe. Alors, j'ai appris quelques recettes pour pouvoir inviter des amis, parce que j'adore inviter des gens. Et puis sinon, j'apprends à mon fils Léo les rudiments de la cuisine, de façon à ce qu'il s'y mette rapidement. Heureusement, il aime ça. Et j'espère que c'est lui qui va devenir rapidement le grand cuisinier de la famille. Ma petite fille de 8 ans, Yona, s'y met aussi. Donc, on est en train de passer leur relais, là.
Ouais, ou passez pas le relais, parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui les forme bien.
Oui, alors on a la chance d'avoir une grand-mère qui cuisine très bien, qui est là de temps en temps pour leur apprendre quelques recettes. Puis sinon, il y a des livres de cuisine.
Oui, il y en a même qui les écrivent. On écoute Versari, il chante Les Silhouettes. Sieste qu'on veut s'accorder.
intérieur, être soi sous son toit.
C'était Versailles, les silhouettes. On est toujours chez Denise Gihan, à la table à laquelle on mange, en famille. Les enfants sont au lit, sont couchés ce soir. On entame le dernier quart d'heure pour aller jusque vers minuit. On parlera encore de Rebondard. Denise Gihan, à 45 ans, là, le sens de votre vie, on dirait qu'il est absolument assumé, absolument sensé. Vous allez jusqu'au bout. Vous ferez d'autres choses qui auront autant de force que Rebondard et d'autres documentaires.
Alors, mon prochain documentaire est un documentaire sur les médiums, sur la médiumnité. J'avais fait en 2001 un documentaire qui s'appelle « Aux frontières de la mort », sur les personnes qui vivent une mort temporaire, hein, qui en reviennent et qui en témoignent. Ce qui m'a amené la certitude, finalement, qu'il existe bel et bien une vie après la mort. Donc là, avec mon prochain documentaire, « Médium », j'explore plus loin, en fait, cette deuxième tranche de vie qui est notre avenir à tous. Hein.
Alors, vous ne faites rien sans votre propre curiosité dans votre métier. Vous essayez de satisfaire votre questionnement.
Oui, c'est un privilège immense. Hein. Effectivement, je pars souvent de questions, d'une quête qui est la mienne, pour la rendre le plus universelle possible, dans le souci de partager avec le plus grand nombre les fruits de ma quête, quoi.
Alors justement, à Mexico, vous racontiez cette anecdote étonnante de cette femme que vous rencontrez, qui va dans le fond synthétiser ou en tout cas faire se cristalliser le sens de votre vie, de votre carrière professionnelle, de vie de femme aussi. Là, le médium, vous avez besoin de prouver qu'il y avait peut-être quelqu'un sur votre épaule, qu'il y avait dans votre perception de l'existence des antennes et que vous êtes vous-même peut-être un médium ou quelqu'un qui se questionne sur ses facultés de recevoir, de transmettre et de ressentir.
Oui, alors je crois, comme je disais tout à l'heure, qu'on est dans une société de perte de sens, tellement que ça devient urgent pour moi de partager en fait une exploration d'un monde plus large. Je pense que si on se cantonne à observer la réalité et nos vies telles qu'on les pratique comme ça de façon complètement matérialiste et cartésienne, on est vite dans le désespoir. Et pour moi, c'est vrai que ma vie a pris un autre sens depuis que je me dis qu'on est pris dans un univers beaucoup plus large et que finalement on est peut-être sur Terre pour expérimenter des choses, pour apprendre, pour éprouver son lien aux autres, mais que plus tard, il y a aussi d'autres formes d'existence qui vont nous permettre de mettre en forme tout cet acquis de cette vie-là que je trouve plutôt dure, quoi. Alors la médiumnité, bon, c'est une façon d'être en contact avec les défunts, mais c'est surtout pour moi essayer de comprendre ce sens plus large de la vie, comment est-ce qu'on est guidé, comment est-ce que finalement on est des êtres beaucoup plus profonds et beaucoup plus entiers que ce qu'on veut bien se permettre de vivre dans nos cultures.
Mais ça veut dire aussi qu'on n'explore pas non plus tous les sens, toutes les qualités, les vertus de notre être, dans notre manière de capter la vie, et qu'on ne sait pas toujours, on est finalement un peu les invalides de notre propre existence, puisqu'il y a des choses qu'on ne perçoit pas et que d'autres perçoivent, mais que nous pourrions percevoir si nous développions ces qualités-là.
Oui, c'est ça, vous avez merveilleusement bien résumé ce que je pense. On n'utilise pas le dixième, je pense, de nos capacités, et dès qu'on ouvre ces antennes, dès qu'on est réceptif comme ça, mais ne serait-ce qu'à son intuition, à son sixième sens, c'est fou ce qu'on est bien guidé. Et c'est très dommage qu'on soit dans une société où finalement on n'enseigne pas ça aux enfants. On est tout le temps dans le faire, hein, fabriquer du fer, produire, emmagasiner des informations et du savoir. Puis finalement on s'offre peu de moments de contemplation ou simplement de disponibilité au monde qui nous permettrait d'être plus réceptifs. Et je crois vraiment que si on écoutait, ensuite on met les mots qu'on veut et qu'on peut, hein, mais si on écoutait son intuition, son sixième sens, son ange gardien ou ce qui nous rend justement plus large, je pense que notre vie serait beaucoup plus riche et surtout beaucoup plus respectueuse de l'environnement, des autres, des gens, beaucoup plus constructive.
L'autre jour, quelqu'un me téléphone, Olivier Moret me dit « Vous devriez rencontrer quelqu'un d'exceptionnel. Je vois cette femme, je suis d'ailleurs son voisin, mais je suis son président d'association. Denise Gihan est une femme extraordinaire. J'ai senti que ce mec, ce gars, ce monsieur, allez, soyons polis, était un ange. Il m'apportait quelque chose, j'ai changé mes plans, j'ai changé ma vie parce que j'ai senti, moi, quelque chose. » Vous avez, vous aussi, quelquefois, ces sensations, lorsque vous rencontrez les autres, qu'il faut tout d'un coup mettre la charrue avant les bœufs, ou en tout cas changer l'ordre des choses, parce que ça va se passer, il y aura quelque chose de particulier dont je vais à la fois profiter et faire profiter les autres.
Oui, j'essaye toujours dans les trains, dans les bus, dans la rue, d'être extrêmement réceptive et de prendre le temps de la rencontre. Pour moi, rien n'est hasard, hein. Quand on rencontre quelqu'un ou quand on nous conseille un livre ou un film, c'est souvent après source d'informations, de renseignements, d'échanges qui nous font grandir. Ou alors, je m'aperçois aussi avec le temps, avec l'âge, que j'ai de plus en plus de retours de gens à qui un jour j'ai juste dit je te conseille de lire ça ou ben tiens si tu faisais ça ça t'amènerait quelque chose. Puis finalement c'est des petites phrases qu'on lâche ou des petits conseils comme ça qu'on lâche l'air de rien dont on se souvient même pas d'ailleurs mais qui tout à coup quand les gens nous envoient un retour des années plus tard, on se rend compte que ça a pris un sens fou dans leur vie et que ça leur a permis effectivement de changer leur trajectoire ou de s'émerveiller un peu plus ou d'être un peu plus proche d'eux-mêmes. Et je crois vraiment en ça. J'espère vraiment arriver à transmettre ça à mes enfants aussi, quoi. Cette vigilance à avoir par rapport à tout ce qu'il nous a offert et comment ça peut être précieux parfois.
Votre vraie spiritualité, Denise Gihan, c'est quoi, l'humanisme?
Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais.
Ah, c'est pas mal de trouver la formule. Vous y aviez pensé, vous saviez que vous étiez une humaniste, quelqu'un d'intéressé par la pâte humaine, qui a besoin d'aller vers eux pour recevoir et échanger?
Oui, je ne sais pas très bien quoi rajouter à ça parce que c'est extrêmement bien résumé. Ouais, je pense que ça donne sens à la vie quand on est proche des autres, proche de soi. Et puis ça nourrit le monde. Hein, la rencontre ou des discussions comme on a maintenant ou rebondard. Enfin, on nourrit le monde en étant vigilant et en pleine conscience, j'ai envie de dire. Faisons les choses en pleine conscience, quoi. Soyons vraiment présents au quotidien et aux petites choses toutes simples qu'on peut faire. Ça rendra tout beaucoup plus vivant et joyeux.
Merci Denise Gihan de nourrir le monde et de faire si mal la cuisine.
De
Non, je suis moqueur. Si vous saviez ce que la cuisine est simple.
Oui, il paraît. Oh, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Non, mais je m'y mets un peu quand même.
Vous me reconduisez à la porte de la sortie, si vous voulez bien. Là, j'en perds mon casque. Et puis, on va écouter un inconnu dans la liste que j'ai là. C'est le programme de Karine Guillamo. C'est Shuggle Otis, mais il chantera sûrement très, très bien pour que nous puissions nous quitter, nous deux. J'arrive même pas à tout faire ce que j'ai à faire. Merci, Denise Gihan. Et rendez-vous pour le vernissage de Rebondard. Quel jour?
Alors, c'est le 26 septembre à 16h, dans les MS des Baumettes, à la rue des Baumettes, à Renan. Et vous êtes tous les bienvenus. Ce sera une très belle fête.
Je me réjouis beaucoup et d'aller visiter ces œuvres d'art de personnes qui ont des choses à nous dire aussi importantes que celles que vous nous avez dites ce soir. Merci, je vous souhaite une des plus belles nuits du monde parce que vous avez fait une belle rencontre, c'est-à-dire celle de la radio. Et puis les documentaires, on les rencontrera nous aussi, on ira les voir sur les écrans et de temps en temps, dans le temps présent, notamment le médium.
Oui, c'est ça. Oui, merci
Et
à
mais
vous.
quand?
Ah ben il est en cours de fabrication celui-là, donc j'ai pas encore de date
2010.
À vous donner, ce sera en 2010, oui.
Merci Denise Gihan. Bye bye, je vous quitte et on écoute Shuggle Otis. Au revoir. sur Radio Suisse Romande la Première, à Chavannes, Renan et Cublan, dans ce quartier ici, à cheval sur trois communes. Il va être minuit dans quelques secondes. Il y a un clocher juste en face de moi. Il va sonner en même temps qu'on va se quitter. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, un autre lieu. Il s'appelle Martial Leiter. Il fait une exposition double à Neuchâtel qui est à la fois un bilan de son existence d'illustrateur et de peintre, mais aussi la parution d'une monographie importante. Martial Leiter, c'est 40 ans de dessin magnifique. Je vous souhaite la meilleure des nuits qui soit. Bonne nuit, il est minuit.